Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors, Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans de l'eau, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Inévitablement, tous les ans, le deuxième dimanche de l'Avent, apparaît la figure de Jean-Baptiste, tout à fait emblématique de ce temps de l'Avent, le cousin de Jésus, le précurseur, celui qui a annoncé sa venue. Et il a un look très particulier, si j'ose dire, avec son vêtement en poil de chameau, Jean-Baptiste à poil de chameau, et aussi avec sa ceinture de cuir autour des reins. Et puis ses sauterelles et son miel sauvage. Mais je vous disais déjà il y a quelques années que ce sont des codes, ces désignations, pour nous faire comprendre. Le manteau en poil de chameau, ça représente le manteau prophétique, donc la fonction prophétique de Jean-Baptiste. La ceinture de cuir autour des reins, ça représente l'ascèse, la maîtrise des passions. Et puis se nourrir de sauterelles, pourquoi pas, enfin, vous pouvez toujours essayer à midi de se faire une petite entrée de sauterelle grillée, mais de miel sauvage, sauterelle dans l'Ancien Testament, c'est toujours un fléau qui existe encore aujourd'hui en Afrique ou ailleurs. Les sauterelles, donc jugement, et puis miel sauvage, au contraire, douceur, miséricorde. Sa parole était à la fois une parole qui annonçait le jugement de Dieu et en même temps son amour et sa miséricorde. Le personnage de Jean-Baptiste est très très intéressant et il faut regarder dans les évangiles tous les passages où il est question de Jean-Baptiste. Ceux qui fréquentent le site internet de la paroisse ont peut-être remarqué que depuis plusieurs mois j'ai mis en ligne une petite école de prière, une petite école biblique. Ça s'appelle la petite école biblique. Ce sont des choses simples pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de lire la Bible très souvent. Et j'ai préparé ainsi des petits parcours sur 30 jours. Et il y a pour chaque jour simplement 2, 3, 4 versets de l'Évangile à lire. C'est un moyen pour apprendre à se diriger dans la Bible et puis lire. Et ce mois-ci, j'ai mis en ligne une étude sur Jean-Baptiste, le prophète de la foi. Allez voir sur le site ceux qui peuvent, ceux qui n'ont pas internet, vous pouvez toujours demander à des amis de vous télécharger et imprimer ce document et essayer de travailler la figure de Jean-Baptiste. Vous verrez, c'est passionnant. C'est tout à fait intéressant. Ça va bien au-delà de son poil de chameau et de ses sauterelles sauvages. C'est vraiment un homme de foi, de conversion qui a vraiment fait passer Jésus avant lui et passé son temps public à annoncer Jésus et non pas à s'engraisser de glorioles personnelles à partir de nombreuses personnes qui pouvaient venir jusqu'au Jourdain pour recevoir le baptême qu'il donnait. Et puis dans l'écriture de ce deuxième, dans les passages bibliques de ce deuxième dimanche de l'Avent, il y a aussi bien que dans l'Évangile d'ailleurs, l'image des ravins qui sont comblés, des montagnes qui sont abaissées, et de ces grandes transformations qui sont annoncées pour le temps du Messie. Vous avez remarqué dans le livre d'Isaïe comment il était dit « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne, toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Ainsi se révélera la gloire du Seigneur. » En méditant ce passage, j'ai eu une mauvaise pensée, ça peut arriver quelquefois, et je me disais, à la Miles, il y a eu les travaux du TGV, vous n'avez pas été sans remarquer, eh bien, remplacer ici le mot Seigneur par le mot TGV, vous avez à peu près la même chose que ce qu'on a vu, de nos yeux vus, ces derniers mois, ces dernières années, de ce qui s'est passé à la Miles. Tracer droit dans les terres arides, une route pour le TGV, que tout ravin soit comblé, toute montagne, toute colline abaissée, etc., etc. Lisez, transposez, mais bon, c'est une mauvaise pensée, mais ceci dit, ça permet aussi de se dire de quoi il est question ici. Il est question de gros travaux, on sait très bien les réaliser aujourd'hui, on a les outils qu'il faut pour ça, et les ingénieurs. C'est des gros travaux, mais des gros travaux qui concernent la conversion, qui concernent la préparation à l'accueil de Jésus. De quoi est-il question à travers les ravins ou les collines, les escarpements, les sommets, si ce n'est des aspérités de notre vie, du péché de notre vie, qu'il faut transformer d'une part par un effort personnel d'ascèse, comme on disait en parlant de Jean-Baptiste, de conversion, mais aussi par une demande de l'Esprit du Seigneur qui seul peut nous donner ce cœur de chair dont nous parlions au début de l'Eucharistie. Le temps de l'Avent est aussi un temps de conversion comme le temps du Carême. Au temps du Carême, c'est nettement souligné, listé, voilà, le jeûne, la prière, l'aumône, 40 jours. Le temps de l'Avent, on a beaucoup moins ce sentiment, et pourtant, dans la tradition de l'Église, c'est aussi un temps de conversion et de préparation au Seigneur. Aujourd'hui, évidemment, on est complètement matraqué par l'emprise commerciale pour les fêtes de Noël, mais il nous est dit à travers la parole de Dieu que nous avons à vivre une transformation dans nos vies concrètement, une transformation spirituelle qui exige la prière, qui exige la lecture de la parole de Dieu, comme on le disait tout à l'heure, la lecture de la Bible, qui exige le sacrement de réconciliation. Je vous dirai tout à l'heure, on a préparé des célébrations pénitentielles pour la semaine prochaine, ainsi que le 24 décembre, mais il est important de recevoir le sacrement de réconciliation, de se confesser. Aujourd'hui, les gens ne savent plus ce que c'est, ne le font plus, qu'à reculons, et pourtant, c'est un très grand sacrement. Il y a des gens parmi nous qui ne sont pas confessés depuis des dizaines d'années, je ferme les yeux, je ne regarde personne, et forcément, parce qu'on tombe dans une certaine médiocrité, puis on finit par s'y installer, puis on ne voit plus où est le péché après, hein. Mais nous avons besoin vraiment de revenir au Seigneur en lui demandant de nous purifier. Et ce sacrement est absolument merveilleux parce qu'il nous remet dans la grâce de notre baptême de façon puissante, simplement parce que nous avons eu l'humilité de nous abaisser devant le Seigneur et lui fait le reste. C'est lui qui nous comble de son amour. Et enfin, je voudrais terminer en soulignant la deuxième lecture. La deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre de Pierre. Pierre, le disciple de Jésus, le premier responsable de l'Église, nous dirions pape aujourd'hui, il a écrit deux lettres. Il est à l'origine sans doute de l'Évangile selon saint Marc, qui fut un peu son secrétaire. Et il a écrit deux lettres avant de mourir martyr en 64, quelque chose comme ça, sous Néron. Il a écrit deux lettres qui sont fort intéressantes parce que c'est les premières encycliques d'un pape. Et dans cette deuxième lettre, il exprime clairement que le chrétien doit être en attente de la promesse, la grande promesse, non seulement celle du Saint-Esprit qui a été accomplie à la Pentecôte, mais celle de la venue glorieuse de Jésus. Et il dit, ça semble tarder, mais non, c'est une illusion. Un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Le Seigneur doit accomplir sa promesse, la promesse de la venue glorieuse de Jésus et la promesse d'un monde nouveau. Et il termine le passage que nous avons entendu aujourd'hui. Ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Quand Pierre écrit sa deuxième lettre, vers les années 60, les chrétiens se trouvent aux prises avec un monde, une société romaine en pleine dissolution, comme aujourd'hui, exactement comme aujourd'hui, du moins en Occident, en pleine dissolution des mœurs et des valeurs. Et évidemment, il y a une sorte d'attente exacerbée de la venue glorieuse de Jésus à la fin des temps. Les premiers chrétiens ont pensé que Jésus allait venir glorieusement sans tarder. C'était imminent. Et puis, bien sûr, nous connaissons la suite. On est 2000 ans plus tard et Jésus n'a toujours pas apparu glorieusement, mais il remplira sa promesse. Et c'est vraiment ce que nous attendons. Un chrétien normal, pour reprendre certaines expressions, n'est-ce pas ? Un chrétien normal, c'est un chrétien qui vraiment attend que Jésus se révèle glorieusement devant toutes les nations, attend son retour glorieux. Vous direz, ouais, bon, moi ça ne me branche pas spécialement, c'est pas mon truc, j'ai autre chose à faire, bon. Oui, sans doute, sans doute. Et cependant, ça doit toujours rester présent à notre esprit, toujours. Parce que Pierre finalement donne une explication, il dit, le Seigneur prend patience envers vous car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Voilà. Dieu donne du temps pour que les hommes se convertissent, génération après génération. C'est vrai aussi pour chacun de nous. Quelquefois, on se demande pourquoi des personnes vivent longtemps, longtemps, si longtemps. Quelquefois, c'est pour la conversion aussi. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dit Pierre. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on fait ici-bas, ne pourra y échapper. C'est un enseignement clair de l'Écriture. Ce monde-ci aura une fin. C'est pas très réjouissant, ça peut sembler démobilisateur, mais pourtant c'est affirmé très, très clairement par Jésus. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Par Pierre ici, et c'est non pas une perspective mortifère, mais une façon aussi de nous permettre de rendre vivante notre espérance. Nous attendons un monde nouveau, la Jérusalem céleste, qui doit venir d'en haut. En ce moment, Dieu ne se tourne pas les pouces, mais il est en train de former et de tisser patiemment le monde nouveau, la Jérusalem nouvelle qui apparaîtra un jour. Ce sera vraiment très beau, très glorieux, extraordinaire. Et nous devons, voilà, il est maintenant 11h, il faut s'arrêter, et nous devons vraiment avoir cette espérance chevillée au cœur.